Carnet de campagne, bonjour. Nous ouvrons une semaine en Aquitaine, quatrième région française, par sa superficie avec ses cinq acteurs dominants, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques. C'est dans ce dernier département que nous partons à la découverte des initiatives locales. Les Pyrénées-Atlantiques sont bien plurielles, comme le nom l'indique, avec une large part issue des provinces basques, le Labour, la Pourdie, à l'extrême ouest qui baigne dans la côte basque de l'océan, la Navarre, Nafarois, la Basse-Navarre, disait-on, et la Soule, sous Bérouat. L'autre grande section, évidemment, le Béarn, et la séparation géographique pourrait suivre une diagonale entre les deux, le long du Gave de l'Oron et de la vallée d'Aspe. Une capitale pour chaque pays, Bayonne pour le Pays Basque, Pau pour le Béarn. Plus de 650 000 habitants vivent sur ces territoires et en majorité dans les nombreuses petites villes du département. Pau, la plus peuplée, dépasse tout juste 80 000 habitants, quasiment le double de Bayonne. Vient ensuite une série de villes modestes, comme par exemple Biarritz et ses 25 000 habitants, ou encore Oloron-Sainte-Marie qui n'en compte que 11 000. Je ne donne évidemment que quelques villes parmi les nombreuses autres. Même si chaque pays possède sa propre chambre de commerce et d'industrie, nous verrons que le vieil antagonisme béarnais basque est de moins en moins vrai, en tout cas dans les esprits de nos acteurs modernes du local. Les Pyrénées-Atlantiques portent encore quelques grands secteurs d'activité, comme celui de l'aéronautique avec Dassault Aviation et Turboméca. Ce dernier producteur de turbines aéronautiques et maritimes emploie plus de 2500 personnes sur le site de Bordes. L'équipementier aéronautique aussi, Messier d'outils à Bidos, compte 850 salariés. Il est annoncé d'ailleurs que le bilan d'activité de cette filière est en hausse et que de nombreux nouveaux emplois vont être créés. Comme quoi, ça existe bien, voilà encore une bonne nouvelle. Les aciéries de l'Atlantique sont aussi, avec l'industrie agroalimentaire, des pourvoyeurs d'emplois locaux. Mais les Pyrénées-Atlantiques sont traditionnellement attachées à une agriculture dont l'espace est peu à peu renié par des projets d'urbanisme et par les structures d'accueil d'un tourisme qui fait partie lui aussi des atouts du département. Comme toujours, ce sont les autres acteurs de la dynamique locale que nous allons chercher cette semaine. Et nous commençons bien d'ailleurs aujourd'hui par une figure du Pays Basque avec Jean-Noël Etcheverry, membre du mouvement BICI, principal levier des événements et initiatives alternatives qui dépassent très largement les frontières départementales. Nous irons ensuite dans le massif de la Pierre Saint-Martin, espace de spéléologie presque unique au monde, pour visiter la salle souterraine de la Verna, qui a donné son nom à la société de gestion de cette curiosité géologique monumentale. Jean-François Godard sera notre guide à cette occasion.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Jean-Noël Etcheverry, bonjour.
Bonjour.
Jean-Noël, membre d'un drôle de beau mouvement, BICI, qui s'écrit B-I-Z-I, mais BICI. D'abord, BICI est né comment et doit se comprendre comment ?
Mais BICI, ça veut dire vivre en langue basque, donc c'est un programme à la fois modeste et ambitieux, si on y pense bien. C'est un mouvement qui s'est créé dans la perspective un peu du sommet de Copenhague en 2009, donc dans cette dynamique internationale sur l'urgence climatique et la justice sociale, pour à la fois participer à ces mobilisations internationales pour demander un accord ambitieux, efficace et juste sur le climat, mais pour également travailler localement justement pour enclencher des solutions concrètes aujourd'hui le jour dans la question des transports, des déchets, de l'habitat, etc., mais dans le même objectif. Donc à la fois travailler globalement et localement. Mmh. Parce qu'on essaye aussi d'en faire une réponse que partageraient d'autres gens. Et puis on s'inspire nous-mêmes de tout ce qui se fait ailleurs. En fait, beaucoup de choses qu'on impulse ici, en fait, on les invente pas. Mais on les écoute, par exemple, à Carnet de campagne. Et c'est ça qu'il y a de pas mal aussi. C'est justement pour... Non, mais je le dis vraiment pas pour vous faire des fleurs, mais c'est encourageant des choses comme ça qui font le lien entre plein d'initiatives, parce que ça montre qu'on n'est pas seul dans son coin. Ça donne plein d'idées de ce qu'on peut faire à partir de l'expérience des autres. Et puis, oui, on se sent plus fort à chaque fois qu'on lit le local et le global.
Jean-Noël, honnêtement, est-ce que vous ne souffrez pas parfois, dans d'éventuels partenariats ou d'échanges avec d'autres régions, d'autres pays, de l'image, de l'identité très forte basque, en disant, ah oui, mais c'est le Pays basque, c'est un pays à l'identité suffisamment forte pour que le courant passe plus difficilement, parce que voilà, ils sont sur leurs réserves, ils veulent préserver leurs acquis.
Mais en fait, nous, en tout cas, on le sent pas, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de relations avec des mouvements du monde entier, d'Europe, etc. Et je crois que, au au contraire, les gens en général nous envient même un peu parce que justement cette forte dynamique collective qu'il y a ici, cette solidarité qui est liée aussi à cette forte identité, fait qu'en général pas mal de batailles prennent une ampleur ici qu'elles ont des fois du mal à prendre ailleurs. Moi je crois qu'il faut à la fois s'enraciner dans un territoire pour vraiment exprimer tout son potentiel et puis surtout le faire en lien avec tous les autres territoires, les autres peuples, les autres communautés, pour ne pas s'enfermer.
Avec un événement, donc c'est un temps fort que vous allez créer le 6 octobre prochain, il aura lieu quelques jours après le 5e rapport sur le climat du groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, le GIEC. Et vous nous dites, il risque cette fois d'être très alarmant.
Toutes les constatations scientifiques, toutes les études qui sont parues depuis le dernier rapport montrent qu'en fait on se situe dans les scénarios les plus pessimistes du GIEC. Et ce cri d'alarme, ça peut produire deux choses. Soit une prise de conscience des gens pour se dire il faut bouger, il est temps de vraiment de prendre ça au sérieux et que nos gouvernants commencent à se décider à prendre les politiques qui s'imposent pour réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre, ou il peut aussi provoquer un effet de sidération, de démobilisation, avec les gens qui se disent de toute façon c'est trop énorme comme problème, moi j'y peux rien, j'ai pas de prise dessus. Et nous, ce qu'on veut avec Alternativa, c'est justement montrer le contraire, c'est de dire aux gens qu'il y a des milliers d'alternatives qui existent au changement climatique, à la crise énergétique, qu'elles sont déjà expérimentées par plein d'associations, de collectifs, de mairies, de communautés, de communes, et que donc tout le monde peut commencer à changer les choses, et que ce faisant en plus, on construit un monde meilleur, plus humain, plus solidaire. C'est ça l'objet, l'ambition de cette édition, de ce village des alternatives, qui va être donc à la fois une grande fête populaire et un village des alternatives individuelles, collectives, territoriales, municipales, au changement climatique et à la crise écologique et énergétique.
Ouais. Et alors, je profite de l'occasion pour suggérer, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-Noël, c'est vrai que les carnets permettent de donner des idées aux autres, la création d'une boîte à outils pour les municipales, parce que je trouve ça excellent. C'est une boîte pratique où vous avez toutes les informations sur l'urbanisme, la mobilité, l'énergie, les bâtiments, l'agriculture, les espaces vers l'économie. Alors en basque, normalement, boîte à outils, ça doit se dire Tresna Kutcha.
Waouh, très fort. Vous avez pris les cours du soir en cachette. Et oui, Tresna Kutcha. Donc on a travaillé en fait un document de 100 pages où on essaye de montrer tout plein de choses qui peuvent se faire dès aujourd'hui. Et donc ça, c'est un document qu'on va distribuer massivement. Là, notamment, on va faire le tour du Pays Basque en vélo pour le distribuer commune par commune à tous les gens qui se présentent au municipal de mars 2014, quelle que soit leur étiquette. Hein. Et c'est quelque chose auquel on va essayer de donner aussi une illustration concrète dans Alternativa, le village des alternatives, en invitant des communes et des communautés de communes qui sont un peu en pointe. Et donc vraiment, là aussi, montrer par l'exemple que le monde, la société qu'on essaye de construire est plus chaleureuse que celle qui nous amène tout droit à l'emballement climatique et à la plus grande crise de biodiversité que l'humanité ait connue depuis longtemps.
Oui, je suis bien d'accord. Dimanche 6 octobre, Alternativa, donc, au centre de Bayonne, ça c'est l'événement. Et puis suivez ce mouvement BC. Vous allez trouver le lien avec BC à notre page carnet de campagne sur franceinter.fr. Merci Jean-Noël Etcheverry.
Et continuez. Et à toute l'équipe de carnet de campagne.
Jean-François Godard, bonjour.
Bonjour.
Jean-François, vous êtes directeur d'une société originale, La Verna. Alors c'est un lieu, un haut lieu unique en Europe, qui fait partie même des sites les plus importants au monde, dans le massif de la Pierre-Saint-Martin. J'ai compté 2000 gouffres.
Même davantage en entrée naturelle sur le massif de la Pierre-Saint-Martin, il y a plus de 2000 gouffres qui ont été recensés par les spéléologues venant d'ailleurs du monde entier qui, depuis les années 50, parcourent ce massif karstique pour explorer et découvrir les réseaux souterrains qui se trouvent 450 mètres sous la surface de ce massif. Ouais. Mais chaque année, il y a des spéléologues du monde entier là, donc qui viennent soit pour des visites sportives, soit pour de l'exploration. Voilà.
Alors aujourd'hui, l'immense salle d'Averna, 240 mètres de diamètre, 194 mètres de haut, c'est monumental, qui a été découverte par des spéologues d'un groupe lyonnais, le club de l'Averna, justement, 53, est ouverte au public. Or, il y a un aménagement avec un gros projet touristique. L'histoire devient particulière parce que vous allez créer un CIVU, donc un syndicat intercommunal à vocation unique, entre trois communes qui sont concernées par cet immense site.
Exactement. Alors, l'histoire de l'aventure de l'Averna commence en 2004 lorsque une société hydroélectrique qui s'appelle la CHEM, Société Hydroélectrique du Midi, vont reprendre et réhabiliter un tunnel qui avait été creusé à l'époque par EDF pour capter l'eau de la rivière qui se situe dans la salle de l'Averna.
Oui.
Et en fait, cette société a réhabilité ce tunnel, a fait une prise d'eau à l'intérieur et grâce à cette exploitation hydroélectrique, vont verser aux trois communes qui sont propriétaires des lieux, donc Aramitz, Arrête et Saint-Engrasse, donc deux communes du Béarn, une commune du Pays Basque, vont verser 75 000 euros par an de redevances.
Mmh.
Et cet argent, au lieu de le diviser en trois, ce qui pourrait être tout à fait naturel pour des petites communes de montagne, ces élus ont décidé de créer un CIVU, qui s'appelle le CIVU Laverna, et cet argent va servir à mettre en place le projet d'aménagement touristique de la salle à partir de 2008. Voilà. Donc pour cette exploitation, les élus se sont tournés vers la Fédération française de spéléologie des Pyrénées-Atlantiques qui a contribué à l'élaboration de scénarios de visite. Alors donc il y a plusieurs types de visites, de la découverte à la visite plus spéléologique. Et on a monté le projet pendant 2 ans. Voilà. Donc l'idée au départ, c'était on a évalué le coût des investissements à 1 million d'euros. Il y a eu 60% de subventions publiques et les 40% restants, c'est les élus qui ont fait un emprunt et qui remboursent annuellement grâce à cette redevance de la chaîne.
Et une particularité, parce que vu quand même l'endroit accidenté, c'est le moins qu'on puisse dire, surtout qu'à pied, il y a un accès quand même au gouffre de 2 heures de marche,
ouais.
C'est que vous avez obtenu le premier prix de la catégorie tourisme et handicap.
Oui, en fait, dès le début du projet, grâce aux maîtres d'œuvre qui ont réalisé les travaux, l'ONF, le lycée Saint-Cric, on s'était dit il faut absolument que le site soit pas réservé à une élite, et que l'on puisse amener tout public découvrir cette salle. En fait, les visites peuvent se faire de 2 façons. Soit on peut accéder à pied à l'entrée, et le guide vous retrouve à l'entrée du tunnel, qui était situé à 1050 mètres d'altitude, alors que l'accueil qui se situe à Saint-Engrasse est à 630 mètres d'altitude. Soit vous y allez à pied, soit vous prenez les navettes. Et pour les personnes donc à mobilité réduite ou en situation de handicap, on a mis en place une navette avec une plateforme qui permet de faire monter dans la navette une personne en fauteuil.
Mmh.
Et on peut accéder tout le long du tunnel parce qu'en fait, c'est un peu incliné, mais il n'y a pas de marche. Et ça permet d'accéder directement dans la salle où là, vous avez un petit cheminement de 120 mètres de long qui permet de voir la salle à 2 angles différents et elle se met en lumière petit à petit.
Mmh. Un site unique en son genre, l'Averna, toutattaché.fr pour l'adresse internet, pour ce fantastique gouffre sur le massif de la Pierre Saint-Martin dans les Pyrénées-Atlantiques. Merci Jean-François Godard.
Et merci beaucoup.
Bonne journée.
Merci.
Merci, au revoir. Le plan de circulation routière des Pyrénées-Atlantiques mérite quelques aménagements. C'est le cas en ce moment avec la fameuse Nationale 10 entre Bordeaux et Bayonne. Vous savez, si vous l'avez déjà empruntée, sur un peu plus de 100 km, elle traverse les Landes en 2x2 voies. Elle va passer en 2x3 pour rejoindre l'autoroute A63 vers l'Espagne, moyennant un péage supplémentaire, ce qui fait pester les usagers locaux. Et puis le second dossier est à plutôt à l'est, avec la principale cible qui est le projet routier qui devrait permettre de relier plus facilement le sud de l'agglomération paloise à Oloron-Sainte-Marie. 20 km pour 400 millions d'euros avec à la clé également un péage. Jean-Pierre, correspondant des carnets, nous alerte et nous donne le lien avec Côte-Béarn, le site du collectif pour les déplacements en Béarn. Il est opposé à ce projet qui viendrait quand même creuser son sillon au milieu d'espace naturel agricole. Et le collectif demande que la nationale actuelle qui relie les deux villes soit davantage sécurisée. L'autre argument qui joue en faveur du collectif est la réouverture de la ligne ferroviaire Pau-Canfranc direction de Saragosse. Alors, il y a un site, c'est codebearn.org. Avant de nous séparer, je vous rappelle les prochaines destinations pour lesquelles vous pouvez continuer à nous solliciter et surtout à nous parler des acteurs socio-économiques et culturels. Il s'agit des départements du Gers, puis des Hautes-Pyrénées, ensuite le Cher, la Creuse et l'Indre. N'hésitez pas à nous écrire à propos de l'Indre où on attend aussi beaucoup de courriers. Merci beaucoup au passage à Arthez de Béarn, Nicolas Stoufflet, le jeu des 1 000 euros.